Radio Okapi. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce nouveau numéro des Codes du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables qui s'intéresse aux conséquences du changement climatique sur les activités agricoles en RDC. Je suis Tati Mapoukou, Willem Lungamba assure la prise de son sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce magazine.
Développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Les effets du changement climatique ont des conséquences néfastes sur la santé et sur les activités agricoles sur l'ensemble du territoire national. C'est une réelle menace pour l'agriculture au moment où les paysans congolais enregistraient de faibles rendements avec une météo imprévisible et des saisons culturales très écourtées. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur les activités agricoles en RDC? Quels sont les projets de résilience que le gouvernement congolais a mis en place avec ses partenaires pour aider les producteurs agricoles à s'adapter aux effets du changement climatique? De plus amples informations, vous les aurez sans doute au cours de ces numéros des Codes du Développement. Nous accordons la parole à notre premier intervenant, François Nzinga, un habitant de Mwanda au Congo central, pour un témoignage. Dans cette partie du pays, les phénomènes les plus marquants liés au changement climatique est l'érosion des côtes de l'océan Atlantique, avec comme conséquence la baisse des activités de la pêche. Heureusement, on a développé des activités alternatives en faveur des communautés vulnérables habitant la cité de Mwanda, confie François Nzinga, que nous écoutons sans plus tarder.
Je suis né et j'ai grandi ici à Mwanda depuis presque 58 ans. Nous savons que les vagues de l'océan provoquent des érosions à la côte depuis 1980. Nous avons déjà perdu plusieurs habitations qui étaient construites le long de la côte. À ce jour également, les maisons continuent à s'écrouler et à être emportées, mais des gens continuent à construire le long de la côte. En vérité, nous avons appris et vivons tout ce que Panam est en train de réaliser. Panazone nous a appris comment pratiquer le petit élevage et nous a même livré des bêtes à élever. Il nous a aussi appris comment pouvons nous-mêmes élever nos poissons dans les étangs, car la pêche n'est pas toujours fructueuse dans la mer. C'est la pisciculture. Nous avons grandi ici, nous sommes nés ici. N'eût été Panazone, nous ne saurions pas comment pratiquer la pisciculture ici à Mwanda. Troisièmement, les maraîchages. Nous ne cultivons que l'arachide, le niébé et autres cultures vivrières. Mais le maraîchage, qui aide également à des ménages, nous les pratiquons aujourd'hui grâce à Panazone, qui nous a formés et donné les semences à cultiver. Actuellement, avec des bêtes comme remises, je pratique l'élevage. Les semences reçues m'ont aidé à faire mes petits jardins et j'ai creusé mes étangs pour la pisciculture. En outre, nous avons appris autre chose. Vous voyez tout cet espace ici, il y avait autrefois des mangroves. D'ailleurs, on peut encore voir des racines à ces endroits qui démontrent qu'il y avait des mangroves. Mais on a déboisé pour en faire de la braise. Panam nous a remis des foyers améliorés pour réduire l'utilisation et le coût de la braise et pour que nous arrêtions avec les déboisements des mangroves. À partir de la compréhension de ce projet, ma vie a changé. Aujourd'hui, même si je vais à la pêche et que je n'attrape pas de poisson, je peux aller m'en procurer dans mes étangs. Donc j'ai reçu un plus et je ressens le changement dans ma vie. Si on chasse mes enfants de l'école à cause des frais scolaires, je peux prendre une bête et le vendre pour m'acquitter des frais des enfants. Tous les appuis que Panan a donnés dans le cadre de la lutte contre l'érosion, moi de ma part, je trouve que c'est bénéfique. Quand il n'y a pas de bénéfices, même dans le commerce, tu ne sauras exercer. De la même manière, moi je continue à pratiquer la pisciculture, l'élevage et le maraîchage parce que je trouve un gain. Sinon, j'aurais arrêté. Même pour toute la population, c'est bénéfique. Mais c'est seulement l'ignorance. Car ceux qui ne possédaient qu'une seule chèvre en ont 3-4 à ce jour. C'est grâce au projet Panazone. Il est venu pour lutter contre l'érosion côtière et a fait un grand pas grâce à la sensibilisation. Il a interdit à la communauté de creuser et de prélever les graviers à la côte car cela provoque la montée des eaux. Il nous a amené à abandonner nos vieilles habitudes et nous a conduit au développement en nous interdisant de polluer notre eau et de détruire notre propre environnement.
Merci à François Nzinga, un habitant de la ville de Mwanda qui a accepté de nous livrer son témoignage. Pour la petite histoire en ce qui concerne notamment les effets du changement climatique, la sonnette d'alarme avait été tirée en 2010 par les fonds des Nations Unies pour la population lors de la publication de son rapport sur l'état de la population mondiale en 2009. Selon cette agence des Nations Unies, le réchauffement climatique risque d'aggraver la pauvreté et alourdir l'essor des communautés locales, notamment avec la sécheresse, la baisse du rendement agricole, les inondations et les migrations. C'est quoi les concepts composés changement climatique? Ils désignent l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours d'une période bien déterminée. Nous allons suivre les explications du professeur Modeste Kisanga-Lamouké, hydroclimatologue.
Au jour d'aujourd'hui, il y a le phénomène changement climatique. Mais c'est quoi les changements climatiques? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est les changements climatiques. Pour comprendre la terminologie changement climatique, il faut être plutôt un observateur. Le climat, c'est un patrimoine. Le climat existe. Le climat, c'est ce que nous vivons dans notre quotidien.
C'est-à-dire
quoi? L'air que nous respirons, c'est dans le climat. Le changement climatique, il y a des paramètres, il y a des variables. Les variables comme température, les variables comme pluviométrie, ce sont les variables les plus considérées dans le changement climatique. Quand le monde était monde, je prends par exemple vers les années 60, la ville de Kinshasa, on ne trouvait pas des érosions, n'est-ce pas?
Oui.
On ne trouvait pas de... Il n'y avait pas assez d'inondations parce que l'environnement était respecté. Mais quand l'homme a commencé à occuper l'environnement, vous détruisez l'environnement, vous cherchez à améliorer vos conditions de vie, n'est-ce pas? Sans tenir compte des normes environnementales. À ce moment-là, parce que le climat, c'est dans l'environnement. Dans l'environnement que vous vivez, c'est là que le climat se trouve. Et quand vous bouleversez l'environnement, vous bouleversez directement le climat. Le climat, c'est comme un système d'engrenage. Vous coupez la forêt, n'est-ce pas? Vous laissez la place au sol nu. Vous modifiez même le climat de votre milieu de vie. Et là, vous êtes en train de modifier au changement climatique. Vous participez au changement climatique. Mais comment on observe les changements climatiques? Les variables que je venais de citer ici, la pluviométrie, la température, parce que nous avons l'ensoleillement, nous avons tout, mais tout se résume en ces deux. Parce que dans la pluviométrie, nous avons aussi là-bas la pluviosité et l'intensité des pluies. Ce que nous vivons actuellement. Il y a ce qu'on appelle des pluies tranquilles. Il y a ce qu'on appelle des pluies sporadiques. Des pluies qui tombent en trombe, n'est-ce pas, en grande quantité pendant un court temps, mais qui créent des dégâts énormes. Pourquoi cela? C'est à cause des changements climatiques. Pour la température, on l'observe, n'est-ce pas?
Oui.
Il faut faire une observation d'au moins 30 ans pour dire que non, il y a vraiment changement.
Nous comprenons la suite des explications du professeur Modeste Kisangala Mouké, hydroclimatologue, que le changement climatique est une réalité. Il a des conséquences néfastes sur la santé et sur les activités agricoles. Pour aider les communautés congolaises les plus vulnérables au phénomène du changement climatique, le gouvernement congolais, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place depuis 2009 un programme d'adaptation au changement climatique pendant un sigle indique Mbouyi, chef des divisions à la direction du changement climatique et point focal climat.
Ce programme résulte de la décision de la Convention sur le climat qui a demandé à ce que les pays les moins avancés, vulnérables aux effets des changements climatiques, puissent présenter des initiatives d'intervention immédiates et urgentes. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet a été, ce programme est initié et il est fondé sur la problématique de la vulnérabilité des pays pauvres face aux effets néfastes des changements climatiques.
Sur terrain, quel est le constat qui a été fait pour que vous puissiez mettre en place tous les projets qu'on nous a présentés au cours de ces travaux?
Le constat est tout simple. Nous commençons principalement, c'est des questions de moyens de subsistance. On a vu que les populations perdent de plus en plus leur capacité de faire face à la situation de la vie. Avoir des moyens, avoir la nourriture suffisante, avoir de l'eau facile, avoir les soins de santé qu'il faut, des maladies dites aux conséquences de changement climatique. Je veux dire, à l'augmentation des températures, vous avez des questions de paludisme, vous avez des maladies diarrhéiques. Et d'autre part, il y a cette rareté de l'eau, parce que plus il fait chaud, plus il y a ce coin-là qui, carrément, l'eau devient une denrée rare. Du point de vue agriculture, vous remarquerez que les populations rurales, lorsqu'ils sont en train de produire régulièrement sur le même terrain, de plus en plus le temps passe, de plus en plus le rendement baisse.
Oui, les plantes subissent le stress hydrique et cela a des conséquences sur les rendements agricoles.
Toutes les questions de perturbation des calendriers agricoles sont également concernées. Et ce sont ces raisons-là, des bases, donc des questions de survie de la population, qui sont un peu les moteurs de cette démarche de trouver des parades. Parce que les questions d'adaptation, ce sont des questions de parades. Comment faire face à cette situation en mettant en place de nouvelles stratégies un peu meilleures que ce qu'on est en train de perdre.
Des projets de distribution des semences améliorées sont initiés dans les différentes zones d'intervention pour aider les communautés locales à faire face aux effets du changement climatique dans le cadre du projet PANA, ajoute Jean-Claude Bomboula, chargé de suivi au projet PANA. Les volailles des races améliorées et les métayages des caprins ont également été initiés pour assurer la sécurité alimentaire des communautés vulnérables aux effets du changement climatique.
Nous sommes en train de répondre à la question de la résilience dans les secteurs agricoles. C'est pour dire, nous sommes dans les projets de renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation. C'est tout dans le secteur agricole. Pourquoi? Parce que nous dépendons de l'agriculture, comme vous venez de le dire. C'est à 70% que la communauté vive de l'agriculture comme activité principale, dont la source de revenus. Mais avec le changement climatique, la communauté est devenue vulnérable. Nous, dans le projet PANAF, l'option, c'est de chercher d'abord à trouver les semences qui vont résister à ces chocs climatiques. Et ça, nous appelons les semences résilientes. Et là, nous allons travailler avec d'abord l'UNERA, qui est l'Institut de recherche agronomique, qui va nous appuyer à faire des études scientifiques, agronomiques et surtout en passant par les criblages jusqu'à homologation. Et une fois terminés les travaux de recherche scientifique, nous prenons les données, on renverse auprès des services de l'État au service de l'agriculture qui est le CNASM et lui à son niveau c'est pour certifier avec les deux tests. Une fois il a confirmé les résultats de recherche et ces variétés sont inscrites au catalogue national. Et une fois cataloguées, nous renversons aussi auprès toujours d'un service de l'État qui s'appelle Service national de vulgarisation pour mettre auprès des paysans les résultats de recherche certifiés par CNASM et au niveau des paysans, ils vont consommer les produits finis. Et c'est à travers la vulgarisation que les paysans seront informés des nouvelles variétés qui sont connaît qui résiste au choc climatique, là les communautés pouvaient faire le champ sans inquiétude, puisque les semences résiste au choc hydrique et ça aussi ça est bon et donc ça donne un bon rendement par rapport à la production.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Vous êtes en train de suivre Écho du développement, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables sur Radio Okapi. Nous nous intéressons aujourd'hui aux conséquences du changement climatique sur les activités agricoles en RDC. Les changements climatiques occasionnent la prolifération des maladies chez les êtres vivants et chez les espèces végétales. Renchérit le professeur Modeste Kisanga Lamouké. Nous rappelons qu'il est hydroclimatologue.
Quand il y a hausse des températures, il y a prolifération aussi des maladies. Par exemple, quand il pleut, n'est-ce pas? Il pleut beaucoup. Il y a des niches de moustiques qui sont emportées, n'est-ce pas? Mais quand il ne pleut pas, les rivières deviennent des lieux de prolifération des moustiques. Quand il fait chaud, et comme à Kinshasa, c'est plein de moustiques, les moustiques vont commencer, vont se reproduire facilement, vont commencer maintenant à se multiplier et ça devient un problème. Sur les plans agriculture, même les mamans maraîchères, ici, quand vous allez dans le maraîcher le long du fleuve,
Angélie-Brasserie,
tout ça, au jour d'aujourd'hui, pour bien produire, ils sont obligés d'éjecter des produits chimiques pour enrichir les sols. Donc, les changements climatiques viennent aussi
impacter négativement
sur les activités agricoles. Mais pour ceux qui font des champs dans les villages, dans des provinces, comme nous sommes au sud, je prends seulement cet exemple-là, on coupe les champs au mois de juillet, août. N'est-ce pas?
Pour préparer la grande saison
du mois de septembre. Saison. On sait qu'au 15 novembre, au 15 septembre, les premières pluies vont commencer à tomber. Et quand les premières pluies tombent, on commence maintenant à s'aimer. Mais quand ils vont commencer à s'aimer, ils vont attendre les premières pluies. Les premières pluies n'arrivent pas. Le mois de septembre passe. Le mois de novembre, et toutes les graines plantées
vont sécher.
N'est-ce pas? Les pluies vont venir au mois de novembre en retard. Et la production, n'est-ce pas, diminue sensiblement. Ailleurs, moi, j'étais au Gabon dans un atelier, au Congo-Brazzaville ici, dans un atelier où ailleurs, on change déjà les climats et plutôt les calendriers agricoles parce qu'il y a changement climatique. Mais au niveau de notre ministère, je ne sais pas si nos amis agronomes ont déjà pensé à donner des leçons, n'est-ce pas, à ceux qui font les champs, d'échanger les calendriers agricoles. Il ne faut plus s'aimer au mois d'août, au mois de septembre, non. Parce que les pluies viennent maintenant en retard. Il faut retarder la semence, attendre le moment approprié. Comme ça, quand vous semez et les pluies tombent, les graines vont pousser et donner un bon résultat.
Sur terrain, les agents du Service national de vulgarisation SNV en sigle accompagnent les communautés ayant bénéficié des semences améliorées pour s'assurer d'une bonne pérennisation du projet PANAAFE, soutient Richard Béat, expert au SNV.
Dans le cadre de ce projet PANAAFE, le travail du SNV, c'était d'encadrer les producteurs dans la pérennisation des acquis qu'ils ont eus par rapport au projet PANAAFE. Parce que le projet a mis à leur disposition des semences de variétés résilientes qu'ils devaient multiplier et qu'ils devaient garder cette semence pour qu'ils parviennent à aller au-delà des attentes de leur production avec, par exemple, les semences de variétés non résilientes. C'est un peu ça, donc les agriculteurs ont été accompagnés dans ça ou ils sont accompagnés dans ça par le Service national de vulgarisation, de sorte que ils n'utilisent pas ces semences-là de n'importe quelle façon.
Un système de partage d'informations sur les prévisions météorologiques et des clubs d'écoute des auditeurs qui font les monitoring des nouvelles sur les prévisions de la météorologie diffusées par les radios communautaires est également mis en place pour permettre aux communautés locales de bien exercer leurs activités agricoles, ajoute Jean-Claude Bomboula. Nous rappelons qu'il est le chargé des suivis au projet PANAAFE.
Dans ce cadre de ce que nous appelons la gestion climatique, la gestion des risques climatiques, nous avons mis en place un système de l'observation des paramètres climatiques. C'est-à-dire au niveau de la communauté, nous avons d'abord instauré les systèmes de mise en place des pluviomètres. On a installé des pluviomètres pour accompagner les paysans à quantifier le nombre de pluies et à calculer le nombre de pluies. S'il faut arriver à un seuil déterminé, comme par exemple au Congo central, pour s'aimer, il faut déjà arriver à 1100 mm. Il faut arriver à ce seuil, les communautés peuvent adopter un comportement, soit de commencer déjà les semis ou préparer le terrain. Et en traitant le système de communication climatique qui passe par les clubs d'écoute qui sont installés au niveau des villages, le soir, les communautés peuvent échanger les difficultés, partager les expériences et les connaissances par rapport à leur calendrier qui a subi des perturbations. Et l'observateur qui est en train d'analyser les quantités de pluie par rapport à son estimat qui est le pluviomètre, il peut relayer l'information au niveau de l'INERA. Pour ce l'INERA, c'est l'institution la plus spécialisée pour orienter les communautés officiellement sur la question des champs. Et une fois relayé, on revoit l'information pour le traitement au niveau de Metelsat. Et Metelsat, à son niveau, il va maintenant produire cette information en termes de bulletins. Il publie les bulletins de cadets, c'est-à-dire après 10 jours après, on publie les bulletins en termes de bulletins journaliers, bulletins de cadets ou même les prévisions météorologiques. Et s'il y a aussi des incidents graves directement pendant la saison pluvieuse ou pendant la saison sèche, et là, Metelsat peut renvoyer les informations en termes des alertes précoces. Et tout ça, ils sont en train de travailler dans une chaîne de communication que nous appelons les systèmes d'échange d'informations climatiques à l'échelle des villages. Et les systèmes sont déjà mis en place pour que et les communautés, et Metelsat, et les radios même communautaires, et sont toujours en communication pour partager les informations et l'expérience et pour gérer en fait la gestion des risques climatiques.
L'érosion des côtes du littoral de l'océan Atlantique est aussi un phénomène lié directement aux effets du changement climatique, confirme l'hydroclimatologue Modeste Kisangalamouke.
Sur les côtes littorales, en Mwanda, n'est-ce pas, il y a une régression terrible des côtes, c'est-à-dire une érosion pas due aux pluies, mais aux vagues. Ailleurs, on protège les berges par des constructions en dur, en béton. Quand la vague vient et frappe, ça rentre. Mais l'hôtel Mangrove à Mwanda est déjà tombé. L'hôtel avait fait son beau temps. L'hôtel là est parti. La cité d'Ntiamfumu.
Qui est très menacée.
Qui est menacée. Ça ne fait que reculer. Donc il faut que c'est le gouvernement qui doit faire ce travail-là. Sinon, ce sont les terres qui sont en train de partir. Hein? L'océan est en train de récupérer petit à petit. La télédétection nous a montré que ça prend au moins 1 cm par an. 1 cm, ça c'est dans la totalité. Hein? Quand vous devez entrer dans l'histoire du Gondwana, tout ça, quand on doit séparer le Brésil avec la forêt du Congo, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas des 1 cm par an. Les 1 cm là, c'est tout le long de l'Atlantique.
C'est considérable.
C'est considérable. C'est beaucoup. Mais il y a des endroits où ça va trop vite. Quand il y a plus de vagues, n'est-ce pas? Si votre berge n'est pas rocher,
protégé,
et ça part. Mais heureusement, là, du côté où se trouve la forêt du mangrove, ça ne part pas. Mais du côté où se trouve la terre ferme, il y a l'érosion régressive qui continue. Donc l'océan continue à récupérer du terrain sur la terre ferme. Dans nos rivières ici.
Le même phénomène sur le fleuve Congo aussi, du côté d'Isangi.
Voilà. C'est produit aussi. Mais là-bas, dans nos fleuves, il y a ce qu'on appelle la divagation. Hein? Le serpentement. Parce que le cours d'eau suit le serpentement. Il y a des moments où vous verrez que le courant, voilà, c'est le courant. Le courant est très fort d'une rive à une autre. soit c'est humilié. Quand c'est humilié, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est sur la rive, que ce soit la rive gauche ou la rive droite, et si cette rive-là n'est pas rocheuse, la rive continue maintenant à faire aussi l'érosion régressive. Il y a des grandes quantités, n'est-ce pas, de la terre qui est récupérée par la rivière. Et à ce moment-là, la rivière s'élargit, mais en diminuant la profondeur de la mouille.
Nous devons souligner que le projet PANA côtière est mis en place pour stopper l'avancée de l'océan sur la terre ferme et aider les habitants de la ville de Moanda à développer des activités alternatives telles que la pisciculture, l'élevage du petit bétail et l'agriculture afin de réduire la pression exercée sur les écosystèmes de l'océan Atlantique, conclut André Mbobochi, coordonnateur du projet PANA Zone Côtière.
Le projet PANA Zone Côtière, il a trois axes d'intervention. Premier axe, c'est la sensibilisation des communautés côtières aux impacts du changement climatique. Il faut faire la sensibilisation par des formations, par des ateliers, par des conférences. Deuxième axe, c'est appuyer les communautés côtières, spécialement les femmes et les jeunes, par des moyens, ce que nous appelons activités alternatives pour leur permettre un revenu. C'est-à-dire, nous appuyons le jeune et les femmes pour le maraîchage, pour l'élevage des caprins et pour les ateliers de fabrication mécanique. Troisième axe, c'est dans la protection maintenant de la côte. Il faut avoir des investissements pour bloquer l'érosion côtière parce que c'est la cause de la destruction de la ville. Donc, c'est l'érosion côtière, c'est-à-dire il faut avoir des moyens pour l'érosion côtière. Aujourd'hui, nous avons protégé la cité de Sianfumu en construisant un mur massif pour la protection de l'érosion.
Vous êtes certainement parti d'un constat. Quel est le problème qui a fait que l'on puisse initier ces projets de protection des zones côtières au niveau de la ville de Moanda?
Oui, il y avait d'abord des réunions, mais la vérité c'est que tous les pays côtiers, donc dans le monde, que ce soit la Guinée, que ce soit la France, que tous les pays qui sont sur l'Atlantique, ils ont des problèmes de côte. Et c'est comme ça, la République démocratique du Congo ne veut pas rester en reste. Il a aussi initié un projet pour résoudre les problèmes de l'érosion côtière. Et on a demandé un financement extérieur du Fonds Environnement Mondial.
Et je vis pendant l'exposé dans les diapos des maisons qui sont englouties par ces phénomènes d'érosion de côte.
Oui, effectivement, c'est un phénomène assez dangereux. Dans la cité de Sianfumu, c'était une belle cité construite par les Belges. Il y avait des belles maisons, mais toutes ces maisons disparaissent aujourd'hui. Les experts qui étudient les mouvements des océans, ils ont estimé que depuis 1988 jusqu'à 2015, l'océan avance 4,23 mètres par an. Donc, regardez un peu dans quelques années, donc on risque de faire disparaître Moanda par l'érosion côtière.
Est-ce qu'il y a des actions menées sur terrain par votre, dans le cadre de ces projets, ont permis à la population de s'adapter à ces phénomènes du changement climatique?
Oui, sur le plan du changement climatique, nous pensons qu'on a suffisamment fait, mais la difficulté qui nous reste, c'est bloquer l'érosion côtière, parce qu'il nous faut beaucoup de moyens, l'érosion demande beaucoup de moyens financiers. Pour le reste d'activité, nous sommes satisfaits.
Est-ce qu'au niveau de la population, est-ce qu'elle adhère facilement aux actions que vous menez sur terrain? Les vols, par exemple, de matériel destiné à la lutte anti-érosive au niveau du littoral, de l'océan Atlantique?
Non, là, au contraire, moi, j'ai trouvé effectivement qu'il y a une adhésion. Parce que quand nous avons commencé à construire les ouvrages contre l'érosion, la population elle-même surveillait. Donc,
parce qu'elle a senti le danger.
Oui, oui, là, vraiment, il y a une adhésion dans ces sens-là. Et nous sommes en train de faire aussi, on les aide à faire des étangs piscicoles. Et là aussi, ils sont très, 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 très intéressés. Ils le font.
avec enthousiasme.
C'est par ici que nous clôturons les magazines Écho du développement consacrés aux conséquences du changement climatique sur les activités agricoles en RDC que vous a présenté Tati Mapoukou. Willem Lungamba s'est occupé de la prise des sons. Jean-Marc Mato qui a coordonné et supervisé cette émission. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À bientôt.